Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et en ce vendredi, me voilà en compagnie de Thomas et de Mathilde. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Avec la collaboration enregistrée de Thibaut et de Clara. Ce soir, ce sera un sous-marin très musical, avec en première partie une interview de Mesparo, réalisée par Thibaut lors de son live au VIP à Saint-Nazaire, et en deuxième partie, une interview de François Delaunay, le co-directeur du Shabada, à l'occasion des 20 ans de la salle en 2014. Et en fin d'émission, vous retrouverez comme chaque jour l'agenda et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Thomas, c'est non seulement ta première chronique de l'année, mais je t'annonce que tu as l'honneur d'être le premier billet d'humeur du sous-marin de 2014. Bonne année, Thomas.
On a tous fait la désagréable expérience. 2014 est une année qui commence par une énorme frustration. Malgré l'utilisation acharnée d'Internet, malgré le téléchargement de dizaines d'applications alléchantes, malgré tous les néologismes dont nous sommes capables, eh bien 2014, mesdames et messieurs, ne rime avec rien. Autant 2013 sonnait comme l'année du pèse, l'année du plaise, autant 2014 nous laisse au milieu d'un vaste désert poétique. Chers auditeurs, malgré cette déception, et chers chroniqueurs et Tiffaine, je ne peux m'empêcher d'user de ce privilège qui court jusqu'au 31 janvier pour vous souhaiter à tous une excellente année. D'ailleurs, à mon avis, le grand bénéficiaire de 2014 sera François Hollande. Après un faux départ en 2012, pendant lequel notre cher président n'a pas su profiter de l'état de grâce offert par son élection, il a enchaîné sur une année 2013 marquée par les boulettes fiscales, les plans sociaux à l'appel et les couacs de communication léonardiens. 2014 sera donc, je vous l'annonce, l'année du renouveau présidentiel. L'homme a mûri. On l'a toujours senti sûr de ses convictions, mais il donnait toujours l'impression de ne pas savoir par où commencer. De ce point de vue, ses vœux pour 2014 ont marqué un vrai changement. Exit le côté caramel mou, François Hollande s'affirme. Dans son discours à l'administration début janvier, il fustige un État trop lourd, trop lent, trop cher, le juge de plus en plus mystérieux dans son fonctionnement et dénonce des collectivités territoriales empêtrés dans un enchevêtrement de circulaires et de statistiques. François Hollande assume, enfin, son positionnement social-démocrate au grand jour et promet 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017 grâce à la montée en puissance de son choc de simplification. Il propose même, cerise sur le gâteau, un pacte de responsabilité aux entrepreneurs. À Toulouse, aujourd'hui, il martèle son objectif de 500 000 logements par an et pour prouver son volontarisme, cède à la mairie des bâtiments du centre-ville pour y bâtir des logements sociaux. Mieux, grâce aux hausses d'impôts en 2013, la France fait partie du peloton de tête des pays les moins inégalitaires, juste derrière, évidemment, les éternels bons élèves, les pays scandinaves. On voit tout de suite que ce positionnement commence à payer. Sa cote de popularité remonte, le Hollande bashing a disparu des médias, l'opposition sonnée reste dans les cordes. François Hollande cueille maintenant les fruits de sa politique du dos rond. Après avoir fait la tortue pendant quelques temps, il a pris beaucoup de coups, a laissé des critiques s'essouffler pour bénéficier à fond des bonnes nouvelles de ce début d'année. On peut citer par exemple, rapidement, le rapprochement idéologique avec l'Allemagne, avec l'arrivée d'une grande coalition sociale libérale qui va changer profondément le dynamisme en Europe, avec notamment l'instauration d'un salaire minimum. On aperçoit également en Europe et en France, une timide embellie économique. Le moral des entrepreneurs s'améliore, le chômage se stabilise et la crise dans l'Union européenne a atteint un palier. L'Irlande sort la tête de l'eau, la production industrielle espagnole redémarre. Et même en France, on annonce une croissance de 1,1% pour 2014. Une croissance poussive, mais que le président a maladroitement confié vouloir pousser. 2014, ce sera donc l'année de François Hollande s'il arrive à capitaliser sur ses forces et sur les événements, s'il arrive à expliquer aux Français comment atteindre ses objectifs ambitieux et profiter de cette accalmie du début d'année pour avancer ses pions. Il y a urgence. Les échéances des élections municipales et européennes le poussent à agir. Le spectre des extrêmes est là. Le poids de la dette atteint des niveaux quasiment insoutenables et le pays recule dans tous les classements internationaux, que ce soit au niveau du climat des affaires ou au niveau du niveau des élèves. J'ai été, moi-même, le premier à fustiger son immobilisme, ou alors ses actions un petit peu maladroites, notamment en Centrafrique ou au Mali. J'espère être le premier à reconnaître que je me suis trompé. Et puis, j'ai besoin d'être honnête avec vous, j'ai préparé ce papier hier, sans savoir que finalement, ce changement pouvait probablement se résumer à une femme. Et oui, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je laisse aux psychologues l'analyse du changement de style présidentiel vu au travers du prisme du changement de compagne, l'influence et l'utilité d'une femme de médias au caractère affirmé pendant la campagne, d'un côté, et l'impulsion donnée par le simple regard d'une femme que l'on veut subjuguer, de l'autre.
Merci Thomas, rappelons simplement que rien n'a été confirmé et que Julie Gayet a obtenu ce soir le retrait des infos du site Closer.
Oui, enfin à mon avis, Closer, quand ils sortent, du gros dossier.
C'est ton avis Thomas. Merci beaucoup, en tout cas on te retrouvera vendredi prochain. Et on revient dans un instant après ce morceau de Moses and the Firstborn, Skinny Girl. I am full, I feel like a pain. See myself and it makes me sick. I will try, I will lose some more. Show you all that I. Elle a la coupe au bol asymétrique que seules ont les jeunes femmes qui sortent des beaux-arts. Après l'école, la tourangelle Mesparo, alias Marion Gomme, migre à Londres pour en revenir avec beaucoup plus d'assurance. Elle était le 14 décembre dernier au VIP de Saint-Nazaire, partageant l'affiche avec le prince Miaou et Cascadeur pour le chantier des Franco. Thibaut, que vous entendez chaque vendredi à 20h dans l'émission Sine qua non, lui a tendu un micro quasi amoureux, un moment qu'il a la gentillesse de nous faire partager. Thibaut interview donc Mesparo au VIP de Saint-Nazaire.
Je suis au VIP de Saint-Nazaire en compagnie de Marion Gomme alias Mesparo, artiste originaire de Tours qui clôt ce soir une tournée de 4 mois durant laquelle elle a défendu son premier album Keep This Moment Alive, paru en mars dernier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est pas la première fois que vous collaborez avec l'équipe des Francovoli puisqu'on est dans le cadre du chantier des Franco. Vous aviez déjà participé en 2010 au même chantier avant de participer au festival en 2011.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une relation durable entre toi et l'équipe ou
Eh ben oui, ouais, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup suivi et c'est vrai qu'au moment où j'ai fait les chantiers des Franco, en fait, j'avais fait d'autres tremplins et le chantier des Franco, c'était vraiment le tremplin qui est plus qu'un tremplin puisque on avait vraiment tout un accompagnement, tout un travail de fond et qui est avec un suivi sur la durée. Donc voilà, oui, on peut dire qu'ils me suivent bien.
Donc c'est la dernière date d'une tournée de 4 mois. Tu as été à travers toute la France, en Belgique, en Allemagne et en Turquie, si j'ai bien travaillé.
Oui, oui.
Il y a des moments en particulier, des souvenirs un peu qui sortent du lot durant les 4 mois?
Il y en a plein, en fait. C'est un peu dur, du coup, parce qu'il y a tellement de choses, et tellement de choses vraiment différentes entre les concerts, les premiers... Début de tournée où j'ai fait concert dans le cadre du festival Les Femmes Sans Mêle. Donc là, c'était avec plein d'autres filles ou des groupes de filles, etc. C'était une super expérience. Après, j'ai joué dans plusieurs salles. J'ai joué au Café de la Danse à Paris, c'était super aussi. Après, j'ai fait des gros festivals d'été. Donc, j'ai joué sur la scène des Vieilles Charrues, les Eurokéennes. J'ai fait le festival Art Rock aussi avec Agnès Obel. Donc en fait, j'ai eu tellement de super moments. J'ai fait un festival aussi en Suisse, qui était super bien, à Lausanne, en Turquie, à Istanbul, c'était génial. Que dire, les locomotives de Vendôme.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, ouais.
Du coup, tu es une artiste qui t'est construite sur scène avant de sortir l'album. Comment ça s'est passé, du coup, à l'inverse, le processus de création en studio?
Eh bien, c'était compliqué pour moi, parce qu'il fallait que j'arrête mes morceaux. Alors qu'avant, je pouvais toujours les faire un peu évoluer au fil des concerts, au fil du temps, quoi. Et donc, c'était compliqué. Et je savais que comme j'avais des concerts avec un mode avec la voix un peu performance, je savais que j'arriverais pas à rendre ça, à rendre le truc vraiment vivant comme ça sur album. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de ramener du vivant. Et donc, je me suis fait aider par Thomas Poli, qui a fait des arrangements de guitare, de clavier, tout en finesse, vraiment sur différentes textures, pour vraiment porter ma voix et toutes mes voix. Et avec Peter Daimel aussi, avec qui j'ai enregistré au studio, où on a fait des choix de micros, en particulier des micros un peu anciens, et on a enregistré les voix sur des bandes, ce qui donne encore un autre grain et qui ramène encore une autre vie. Qui est vraiment autre chose qu'enregistrer basiquement sur un ordinateur avec le même micro. C'est vraiment, ça ramène vraiment autre chose et voilà, c'était un peu l'enjeu de l'album.
Je pense que c'est assez réussi, même carrément réussi. Et du coup, pour revenir un peu sur la genèse du projet, ça s'est fait à Londres, de ce que j'ai compris.
Ouais.
Est-ce que tu dirais que l'album est lié du coup à la ville, ou est-ce que le résultat était le même si tu étais parti vivre dans le Larzac au lieu de partir à Londres?
Non, c'est lié, ouais. C'est lié parce qu'il y a beaucoup des morceaux, ou du moins des morceaux assez importants pour moi, que j'ai écrits là-bas. Pas tous les morceaux de l'album, mais certains comme Next Board Generation ou On the Borderline. Et donc, c'est des morceaux qui sont vraiment, liés à ma vie là-bas. Et il y avait un état d'esprit, un contexte, quoi, en fait. Et je pense que c'est ça qui se ressent aussi sur l'album, même si dans l'album, il y a d'autres choses. Ça ressort beaucoup sur l'album, et en effet, si j'étais allée dans le Larzac, même si je l'ai enregistré au final dans un studio qui était à la campagne aussi, hein, mais vraiment l'essence de l'album s'est faite vraiment sur la route et dans une vie un peu assez instable, en fait, et je pense que ça a joué sur le résultat des morceaux, quoi, en tout cas.
Alors, justement, par rapport à l'instabilité, donc t'as cité deux morceaux, On the Borderline et Next Board Generation. Dans les textes, il y a toujours une certaine nostalgie, une certaine instabilité, comme ça, avec des personnages un peu en errance.
Ouais.
Donc, c'était vraiment ton vécu à ce moment-là, ou c'est plus à prendre comme des histoires, juste ce que tu racontes?
Ben, c'est les deux, en fait, parce que je crois que c'est marrant, ça me fait réaliser que à la fois j'étais dans cet état-là, là-bas, parce que j'ai... C'était peut-être pas en errance vraiment, mais je cherchais des choses, je cherchais à rencontrer des gens, et en même temps je me sentais à part, parce que de ne pas être dans son pays, même si c'est pas un pays qui est si différent de la France, c'est quand même particulier, la barrière de la langue, les blagues qu'on comprend pas, voilà, il y a plein de choses un peu particulières, et puis il y avait ça, et le fait aussi que j'ai beaucoup regardé des films où il y avait des personnages comme ça en errance, et c'est quelque chose qui me plaît aussi, le fait de l'histoire de l'ennui, de se perdre un peu et de rêvasser. Et il y a ça dans des films que j'aime beaucoup, comme Brown Bunny de Vincent Gallo, Buffalo 66 aussi, dans Paris, Texas de Wim Wenders. Tout ça, c'est des films hyper importants pour moi. Et en fait, j'adore c'est des moments un peu durs, en fait, en réalité. Mais ce qui en ressort, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus poétique.
Et maintenant, donc, ton état d'esprit, ta vie un peu a changé par rapport à l'instabilité. Si tu construisais quelque chose maintenant, ça n'aurait pas la même consonance.
Ouais, c'est différent parce que je me suis vraiment trouvée. J'ai quelque chose de j'ai une vie quand même équilibrée puisque ma musique j'en vis. Donc je suis pas voilà à Londres, j'avais vraiment une vie où j'avais pas d'argent. Je faisais des petits boulots. C'était différent. Puis j'étais à un âge aussi où je sortais juste de mes études et j'avais pas encore de. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Il y a rien qui me plaît. Je vais faire que de la musique. Enfin. Donc là, maintenant, je sais, je fais ça et je suis épanouie. Donc c'est encore autre chose. J'ai plus envie d'aller plus loin dans ma musique. Donc je vais aller chercher autre chose. Mais je vais quand même aller le chercher en voyageant et en par réaction de ce que je vais voir. Toujours, comme je me suis toujours placée un peu extérieure, comme tout, je pense toutes les personnes qui écrivent des morceaux, des poèmes ou des livres, on se place à un moment, on se place à l'extérieur de sa propre vie à certains moments pour observer et digérer ça et en faire quelque chose, quoi.
Alors du coup, tu sortais des Beaux-Arts, et donc j'ai lu toujours à droite à gauche que tu faisais à l'époque des performances qui mélangeaient la voix et l'image,
ouais.
Et tu rétablis pas le processus un peu hybride sur scène maintenant ?
Alors j'aurais voulu pouvoir aller assez loin, mais en fait pour l'instant, sur scène on est arrivé à quelque chose où la lumière et vraiment tout le travail de scénographie accompagnent vraiment bien, je pense, mon travail à la voix. Mais par contre, il n'y a pas l'interaction, c'est pas moi qui agis sur la lumière ou sur la scénographie, parce que je me suis rendu compte que déjà, je vais gérer toutes mes machines, et donc gérer mes machines plus gérer d'autres choses sur scène, c'était pas possible. Donc je me suis cantonnée à ça, et donc je travaille avec mon ingé lumière qui, lui, fait tout le travail de lumière.
Par rapport à la langue, si tu chantes quasiment exclusivement en anglais, c'est venu comme ça naturellement, ou c'était une contrainte, au contraire ou...
Non, c'est venu naturellement. J'écrivais déjà en anglais avant. Et après, comme il y a des morceaux que j'ai écrits vraiment voilà, en Angleterre, là-bas, c'était naturel. J'ai passé 2 ans là-bas. Et au bout des 2 ans, j'étais vraiment bilingue, hyper à l'aise. Donc, ça venait naturellement. C'était plus dur pour moi d'écrire en français, en fait. Et voilà, maintenant que je suis rentrée en France, j'écris toujours en anglais. Et j'écris aussi un peu en français. Ça devient un exercice que j'ai envie d'approfondir. En fait, c'est vraiment plus difficile pour moi de placer ma voix, de faire des choses à la voix avec la langue française. C'est vraiment pas l'écriture, c'est vraiment le placer ma voix dans la langue française. C'est ça que je trouve plus difficile. Et c'est un nouveau challenge. J'ai envie de pousser ça plus loin. Je l'ai fait un tout petit peu dans le premier album et je me dis si je peux essayer de trouver quelque chose. Parce que mon but, c'est toujours essayer de trouver aussi des nouvelles choses dans ma manière de faire la musique.
Par rapport à la difficulté d'écrire en français, tu avais dit aux In Rock lors de la sortie de l'album que la difficulté réside un peu de passer derrière des artistes comme Dominique A. Et du coup, quelques mois après, tu fais un morceau avec Dominique A. Donc comment s'est passée la rencontre et la création ?
Eh ben, ça s'est super bien passé. Déjà, j'étais super contente qu'il accepte de faire le duo avec moi. Et donc, je me sentais pas d'écrire un truc qu'il allait chanter. Je me suis dit, je lui ai proposé, il a écrit sa partie en français. Et c'était tellement beau, quoi. J'étais tellement contente. Et puis la rencontre était super. C'est un mec super sympa, super drôle, super intéressant, super doué. Donc j'étais un peu impressionnée, j'avoue quand même. Et en même temps, il est tellement accessible aussi que c'était voilà un moment assez léger et voilà super bien, quoi.
Ça se ressent enfin la complicité dans le morceau. Le morceau est très réussi d'ailleurs aussi.
On a essayé en tout cas de lier, parce que le fait que lui chantait en français et moi en anglais, on s'est dit faut qu'on trouve quand même une manière de lier nos deux voix. Moi je voulais vraiment que lui chante à sa manière, je voulais pas qu'il cherche à faire comme ma mélodie à moi. Et le but c'était vraiment de lier nos voix à des moments, mais d'avoir les deux styles, on va dire, qui venaient se confronter, quoi.
Il y aurait d'autres artistes avec qui tu aimerais collaborer comme ça, idéalement ?
Il y en a plein. Il y en a plein avec qui j'aimerais chanter, mais il y en a un auquel je pense en ce moment, qui est un ami, en fait, James Honey, qui chante dans Band of Burriers, et c'est avec lui que j'ai commencé à vraiment travailler la langue anglaise et tout ça en Angleterre. C'est un MC à la base, et maintenant il fait de la folk, et il mélange le hip-hop avec la folk, c'est vraiment intéressant. Et il a une voix vraiment particulière, et il a une super belle manière d'écrire et de chanter, quoi. Et donc je pense que j'aimerais beaucoup faire un morceau avec lui.
Alors après avoir vécu donc à Tours, à Londres, être parti en tournée, maintenant tu as envie de faire quoi pour la suite en projet, dans ta vie?
Alors plein de choses. projet numéro 1, ça va être travailler sur le deuxième album. Je commence un petit peu, mais voilà, il va falloir que je m'y mette à fond. J'en ai vraiment envie de passer à quelque chose à l'étape prochaine, quoi, en fait. Et j'ai plein d'autres projets. J'aimerais beaucoup aussi revenir un peu à retravailler la vidéo, retravailler d'autres choses que j'ai un peu laissées de côté, des beaux-arts, des performances que j'avais, ou les installations sonores que j'avais envie de faire, que j'ai pas fait. J'espère que je vais trouver le temps de tout faire un peu en parallèle, parce que je pense que chaque discipline nourrit l'autre. Et en fait, de faire que de la musique, c'est bien, mais il y a des moments où je me dis, faut pas que je laisse tomber non plus le reste. Ouais.
Bah, bonne continuation alors, et merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à toi.
C'était donc une interview de la chanteuse Mesparo par Thibaut en décembre dernier au VIP de Saint-Nazaire. Notez seulement que le premier album de Mesparo sortira en mars prochain et que la prochaine émission de Thibaut sur Campus, c'est dans moins d'une heure. Tout de suite, on écoute donc Mesparo avec City on Fire.
Une pluie liquoreuse d'une odeur immonde ruisselle sur la poitrine d'une jeune fille trop blonde. Ses fragiles pantins s'enlacent comme des frères qui échouaient sur le zinc imbibé d'alcool. Échoué sur le sol.
C'était Mesparo avec City on Fire. 20 ans que le Shabada arrose la ville de musiques actuelles. Je fais comme si j'y étais en 94, mais j'avais 4 ans, alors au lieu de vous raconter des sornettes, je vais laisser la parole à François Delaunay, co-directeur du Shabada. Il livre quelques souvenirs précieux. François Delaunay, en 2014, c'est les 20 ans du Shabada. Vous étiez là dès le début. Comment c'était le Shabada en 94?
J'étais là avant le début même, puisqu'on a créé, j'ai participé à créer l'association en 88, donc ça fait très long. Avant le Shabada, c'était ça ta question, vraiment. Comme dans toutes les villes, il y avait des caf-cons, il y avait des concerts qui se faisaient dans les maisons de quartier. C'était toujours compliqué, le rock était mal vu, c'était bruyant, les gens buvaient des bières. Bref, c'était un paysage qui aujourd'hui semble totalement surréaliste. Moi, je me souviens que sur mon salaire, chaque membre prenait de l'argent pour payer des fauteuils cassés d'une salle de spectacle à Angers. Voilà, c'était un autre monde. Donc maintenant, évidemment, il y a des salles dans toutes les villes, ou presque, et tout s'est un peu banalisé. En tout cas, on a la chance en France d'avoir un paysage très atypique par rapport au reste de l'Europe, quoi, avec beaucoup, beaucoup de super salles.
Et le Shabada, il y a 20 ans, c'était comme aujourd'hui, ça a changé
Le public était plus pointu, on va dire, qu'il y avait, parce qu'il y avait les concerts étaient encore une forme d'engagement presque culturellement, c'était plus fort. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les concerts sont... avec leur multiplication, se sont un peu banalisés. À côté de ça, du coup, le public s'est vraiment ouvert. On a des gens qui viennent très souvent et puis d'autres qui viennent que 2 fois par an sur des têtes d'affiche à leur façon, comme des gens comme Yodelis, par exemple. Donc, tout a changé. Et puis, le niveau des groupes français a considérablement monté, quoi.
Quelques souvenirs marquants. En 20 ans, c'est compliqué, mais quelques noms de groupes un peu emblématiques.
Les grands moments, quand même, le plus récent, c'est l'accueil du festival Levitation avec les Américains d'Austin l'an dernier. Ça, c'est quand même un sacré truc. Yatin Ariwen, la première fois qu'ils sont venus ici, c'est en 97, là, ils reviennent. L'histoire qui lie le Shabada à Yatin Ariwen, qui joue sur toutes les plus grandes scènes du monde, est quand même pour nous quelque chose d'extrêmement marquant. Après, à titre personnel, il y a le live de Bachoum, mais ça date puisque c'était 95. Il y a des concerts plus marquants que d'autres. Oui, les Girls in Hawaii qui sont revenus encore là, qui ont joué 3 fois ici. 3 fois, c'est des soirées émotionnellement hyper fortes, mais ça, c'est vraiment nos goûts intimes. Voilà.
Une anecdote avec Radiohead?
Oh, l'histoire de Radiohead, c'est effectivement une vraie anecdote. C'est que pour l'inauguration du Shabada, quand on a monté la programmation, Radiohead n'avait fait que Creep et ils allaient sortir Pablo Honey. Et on a négocié pendant très longtemps avec l'agent. Il manquait un tout petit peu de sous. Je crois qu'à l'époque, c'était 15 000 francs. Il devait manquer l'équivalent de 150 euros pour qu'on s'accorde pour les avoir. Mais voilà, ça, c'est le jeu de Il y a plein de groupes comme ça avec qui on pourrait Blur aussi. Enfin, il y a des anecdotes comme ça. On en a plusieurs avec les Black Keys. Voilà. Mais c'est la vie d'une salle.
Un petit topo sur les 20 ans du Shab, la prog de l'année consacrée aux 20 ans du Shab. Quels sont les événements prévus?
Nous, sur plutôt que de faire un gros feu d'artifice sur une seule soirée, un seul week-end, on a choisi de décliner l'année des 20 ans avec une demi-douzaine de rendez-vous. Donc le premier, c'est le 28 février autour des Bonnie Bones. Il y en a un deuxième le 19 avril autour du Mali, et le Mali Club, avec des artistes maliens très connus qui jouent avec Damon Albarn, qui jouent avec Amadou et Mariam, un mec qui s'appelle Ahmed Fofana. Et il y aura plein d'invités angevins, Lojo, Nouvelle Air... Quale, etc. Donc il y a un week-end 6, 7 et 8 juin avec, on pense, un pique-nique, une forme de pique-nique électronique le dimanche. Et puis à l'automne, une dernière soirée au Shabada et puis des petits à côté comme une publication et des petites choses. Voilà.
Merci beaucoup François Delaunay.
Merci.
François Delaunay, le co-directeur du Shabada, la salle qui fête donc ses 20 ans, vous l'aurez compris. La première date, c'est, je le répète, le 28 février avec Ebony Bones, Acid Arab, Show and Prove et French Doctors. D'autres dates suivront en avril, juin et septembre pour faire la fête comme il se doit à cette salle de concert angevine. Maintenant, à la veille de 2 jours de repos, Clara, notre chroniqueuse sexo du vendredi, nous démonte 10 idées reçues sur la sexualité. Histoire d'aborder la question sereinement, sans préjugés, Clara est dans la boîte, on écoute.
Alors on croit parfois que notre homme ou que les hommes en général n'ont pas de secret pour nous, mais détrompez-vous. Je vais vous remettre dans le droit chemin. Je vais vous parler de 10 choses fausses sur la sexualité des hommes. Il y a quelques trucs qui reviennent souvent dans le questionnement des nanas, donc c'est parfois ahurissant, je tiens quand même à vous le dire avant. Donc premièrement, tous les mecs ne sont pas fans de la fellation. Beaucoup de femmes pensent que, pour combler sexuellement leur partenaire, elles doivent pratiquer la fellation. Eh bien non, même si cette pratique s'est banalisée depuis quelques années, beaucoup de couples ne la pratiquent pas. Elle ne plaît pas à tous les hommes. Ce qu'ils lui reprochent, ça me rend nerveux de sentir les dents de ma partenaire sur mon pénis. Je n'aime pas ça parce que j'ai peur de ne pas pouvoir contrôler mon éjaculation. Je n'aime pas parce que je crains que mes odeurs corporelles gênent ma partenaire. Je ne sens pas le corps de ma partenaire. Conclusion, vaut mieux en parler à son partenaire avant de se lancer. Deuxième proposition, s'il éjacule, c'est qu'il a joui. Et non, la jouissance n'arrive pas exactement en même temps que l'éjaculation. Certains peuvent éjaculer à la suite d'une stimulation sexuelle sans l'avoir éprouvée. D'autres peuvent l'éprouver et ne pas éjaculer. On parle donc d'orgasme sec. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Alors, troisième proposition, l'homme aime la sodomie et il aurait des tendances homosexuelles s'il aime justement la sodomie. Donc moi, j'ai jamais pensé ça, mais qui sait, c'est une question récurrente, un doute qui met mal à l'aise. Donc la sodomie, c'est une variante de l'amour prisé, en général, par les hommes, car ils trouvent excitant d'avoir le pénis plus serré que dans le vagin. Surtout lorsqu'il est plus relâché pour les femmes plus âgées, par exemple. Le mien est super tonique, d'ailleurs. Bon, après, on peut pas tout dire à un homme en matière de sexualité. Bon, j'espère que vous étiez au courant, mais apparemment, c'est aussi une question qui revient. Donc non, 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 vous ne pouvez pas tout confier à votre cher et tendre sur vos relations sexuelles, surtout si c'est pour le critiquer. Un homme critiqué sur le plan sexuel s'en souviendra toute sa vie, même s'il a mille et une maîtresses satisfaites par la suite. Il restera toujours sur cet échec comme marqué au fer rouge. Soyez donc diplomate lors de vos confidences sur l'oreiller. La délicatesse, ça nous connaît, non ? Bon, passons. Un homme peut faire l'amour plusieurs fois de suite. Contrairement à la femme qui peut naturellement renouveler l'extase plusieurs fois de suite, l'homme ne le peut pas. Et là, vous vous dites, ah mais si, avec mon mec, on l'a fait 2, 3, 4, 5, 6 fois, 6 fois à suivre, allez hop. Donc, oui, d'accord, mais bon, la sensation déjà d'une sera pas la même, et en plus de ça, faut être jeune. Hein, donc voilà, ça touche pas tout le monde. Donc une fois le plaisir atteint, le sang quitte en quelques secondes les tissus érectiles du pénis. Son érection et son désir diminuent donc, voire s'annulent. Alors ceux qui enchaînent comme des petits lapins, attention, c'est bien joli de faire l'amour, mais le but c'est de prendre du plaisir, non ? Il paraîtrait également que les hommes n'aiment pas les préliminaires. Faux ! Moi je dis, mais quelle horreur ! Moi je trouve que les préliminaires, c'est quand même presque plus important que l'acte en lui-même en fait. C'est doux, ça prend du temps, mais c'est justement l'attente qui fait tout. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc bon, oui, l'homme aime les caresses, les baisers et la fellation. Et ce n'est pas parce qu'il est déjà en érection qu'il ne faut pas s'y consacrer. Il faut faire monter l'impression. Quel est l'intérêt de faire l'amour sauvagement sans être excité un peu ? Non, non, je suis contre les gens qui n'aiment pas les préliminaires. C'est un vrai, vrai gâchis. Alors, la masturbation rendrait impuissant. Alors que ces messieurs se rassurent, pratiquer la masturbation ne peut pas rendre impuissant. C'est encore une idée qui court. En moyenne, un homme seul se masturbe 3 fois par semaine. Pour certains, cela peut être 3 à 4 fois par jour. Mais la masturbation a quand même un réel inconvénient, c'est qu'elle peut réduire le désir. Donc forcément, comme il y a une autosatisfaction en se masturbant, la personne peut avoir moins envie de rapport sexuel. Mais bon, encore faut-il s'y prendre correctement. Un homme, apparemment, ça fonctionne toujours. On dit souvent que les hommes sont toujours prêts à faire l'amour, qu'il suffit de les stimuler pour qu'ils se mettent en on et que leur érection se déclenche. Certains entretiennent d'ailleurs cette idée reçue comme pour se faire passer pour des dieux de l'amour. Mais la réalité est autre. Et oui, les hommes ont un sexe, mais ils ont aussi un cerveau. Une libido soumise à la relation, au contexte. Ce ne sont pas que des robots, hélas. Oui, ils ont des pannes de désir. Bon, je pense qu'on a toutes connu ça et on se sent frustré, parfois coupable, mais après une bonne tartine au Nutella, on s'endort sereinement aussi. L'érection serait un réflexe. Oh tiens, j'ai toujours le réflexe de bander. Non, non et non, l'érection ce n'est pas automatique. L'homme ne peut pas faire l'amour sur commande. Son érection est fragile et vulnérable. Sa réalisation est un phénomène extrêmement complexe et subtil. Humiliation, tristesse, difficultés professionnelles, personnelles, dépression peuvent la perturber. Il est important que la femme le comprenne. Elle ne doit pas avoir de réaction dévalorisante ou multiplier les reproches quand la panne survient au risque de culpabiliser profondément son partenaire. Et puis, la dernière chose, et la dixième chose, l'homme ne maîtrise pas son éjaculation. Wouh, ça peut nous rassurer. Donc même si l'éjaculation est un réflexe automatique, l'homme peut apprendre à le maîtriser. Moi je l'ai vu, et heureusement, car sinon on pourrait facilement considérer tous les mecs en fait de précoces. Donc alors comment la maîtriser ? Eh bien il y a plusieurs astuces. Bloquer sa respiration pendant les quelques secondes dès qu'il sent l'imminence de l'éjaculation. On peut aussi comprimer le pénis en érection, toujours au même moment. Et sinon on peut fermer les yeux et s'imaginer avec sa belle-mère, pourquoi pas. Hein. Il peut fermer les yeux pour ne plus voir l'objet de l'excitation, comme les seins, la bouche, le vagin. Bon, la dernière proposition, c'est bien évidemment pour les nanas qui n'arrivent pas à faire l'amour avec la lumière allumée en fait.
C'était Clara, notre chroniqueuse sexo qui ne recule devant rien. On la retrouvera la semaine prochaine pour d'autres conseils. Tout de suite, on marque une petite pause musicale avec Deltron 3030. avec Jamie Cullum, Do You Remember?
Do you remember? Do you remember? That time when love meant nothing. Now I am way down, I am so way down. By all these sins, I dream forever after. Do you remember?
As a child, how your wild imagination led you to great discoveries and places. Innocence in your heart before prejudice to spark a cold flame in the dark. How you pushed and kept pushing till you broke through when nobody was looking. Not to get into nostalgia, but some of those things had value. How did it happen? An independent corporation, low control, can maintain it. With rebellious force, developed a course of action. We advertise inviting all to court the master. A queen's faithful handmaidens born to wealthy parents. Life a luxury, but full of scorn. Yeah, they be jealous. We were omnivores, gathered food with our tongues. Peaceful, unprepared against the guns. Ever since we was young, they slayed our real master. Now I tote blaster rifles to peel back domes. Heavy weapon power sources for confrontation against hot situations, safe worlds
and places. Do you remember? Do you remember? A time when love meant nothing. I am way down, I am so way down. By all these sins, I dream forever after. Do you remember?
As a child, how your wild imagination led you to great discoveries and places. Innocence in your heart before prejudice could spark a cold flame in the dark. How you pushed and kept pushing till you broke through when nobody was looking. Not to get into nostalgia, but some of those things have value. Deltron, a respected hero, before retirement to the underground, below zero, ceiling zero, location like limbo, with battle-torn bimbos and all sorts of electro weirdos. But electrical currents run through my bars, produces electric shock if you try to escape the bond. High voltage prods are used to control the odds, renewal process erased, memories of all. My guidance and calmness suggested a new society, unrelated to the criminal acts of the high and mighty, oppressors who contest our every emotion, controlling our emotions through hyperactive convulsions.
Do you remember? Do you remember? A time when love meant nothing. I am way down, I am so way down. By all these sins, I dream forever after. Do you remember?
Led you to great discoveries and places. Innocence in your heart before prejudice could spark a cold flame in the dark. How you pushed and kept pushing till you broke through when nobody was looking. Not to get into nostalgia, but some of those things have value. Wind the clock back to simpler times where you could talk and speak your mind without assault or attack or combat. All resources available in large quantities before the deceit and greed. Privatization of everything that society placed inside its spaces as a service for the patrons. Now you pay for it and your credit better be good. Or if there's an emergency, never see a foot extended in your direction to help forget it. Shred any evidence of wrong when they make pledges among secret societies with freaky fetishes, lie about what's really inside. They never let
do
us
you
in.
Remember? Do you remember? A time when love meant nothing. I am way down, I am so way down. By all these sins, I dream forever after. Do you remember?
Love and love.
2014 lui aura laissé ses cheveux colorés et son peps légendaire Mathilde est de retour avec son agenda détonnant pour la semaine à venir.
C'est pas cool pour mes cheveux ça?
Non, c'est sympa, c'est un compliment.
Alors, les fêtes sont passées, on a tous pris 3 kilos, mais il y a encore de quoi sortir cette semaine sur Angers. Même si la rentrée n'offre pas des événements par million, j'ai farfouillé pour vous. Je n'ai malheureusement aucun compte-rendu à vous offrir parce qu'une menace plane sur Angers en ce moment. Une menace empêchant les étudiants de sortir, les cloîtrant chez eux et veiller de longues heures durant les partiels. Pour ceux dont le supplice est terminé, j'ai de quoi occuper vos soirées cette semaine et ça commence ce soir.
Avec l'atterrissage du Ravership au Jacquaret.
Une soirée orientée sous le signe Capsule. Capsule, c'est 6 ans d'association, 40 soirées électro organisées, 2000 à 3000 personnes en soirée dans l'année. L'association idéale pour des jeunes artistes, mais c'est pas que de l'électro. C'est là où les plus acharnés du monde de la musique électronique avec un grand E s'entendent. J'ai rencontré Nico hier, le big boss de l'association Capsule, qui m'a parlé de la soirée de demain soir. Et demain soir au Jacquaret, c'est du 109, ou presque, de Capsule, des artistes qui feront leur première scène comme Trashbox. Trashbox qui nous amène des sonorités et un style qui risque d'en dérouter, à mon avis, plus d'un à la première écoute. La soirée commence ce soir avec Jox vers 22-23h, DJ depuis un an à Capsule, avec de la prog house, encore conventionnelle, pour nos oreilles. Il est enchaîné direct de Xo, aka Max Gore, pour ceux qui connaissent, pour un son beaucoup moins tendre et délicat. Ouais, des tendances psy, dark trance, ce sont des sonorités un peu moins délicates. Je vous en parlais plus tôt, Trashbox ce soir va nous apporter un son encore moins délicat pour nos petites oreilles. Du breakbeat, breakcore, le mot qui fait peur déjà. C'est une musique hardcore à base ou drum and bass pour resituer avec des sonorités qu'on connaît, disons plus facilement. Trashbox, ses morceaux, il les compose de A à Z et c'est simple aussi. C'est un son plus facilement écouté dans le Nord. Le breakcore, pour faire simple, c'est de la grosse musique électro complètement déstructurée, absolument pas cyclique ni rythmée. Un genre qu'il aimerait apporter dans les environs en juin, et je le cite, c'est pire qu'un travail de titan à réaliser, et franchement, on le croit. Bref, ce soir, pour leur première depuis 2014, c'est 3 DJ signés Capsule qui nous apporteront un nouvel air musical aux sonorités peu communes dans les parages. Et une dernière chose, protégez vos tympans.
On continue mardi soir dans un tout autre registre.
Je vais vous parler cinéma, histoire de continuer de nous choisir et présenter des films gratuitement sur le thème, je le rappelle, de l'histoire à travers le cinéma. Harvey Milk, ça évoque sûrement quelque chose. Ce n'est pas une nouvelle barre chocolatée sortie de chez Milka, c'est un homme politique américain des années 70. Harvey Milk, c'est surtout une énorme campagne politique et féroce pour les droits des homosexuels. Un biopic qui, pour la confession, m'a fait verser une petite larme avec Sean Penn et Emile Hirsch de Into the Wild. Les cinéphiles, le mardi 14, vous êtes du coup de sortie à la passerelle à Belle Bay à 20h30 pour verser une petite larme devant ce film.
Jeudi 16, au Bar du Quai, c'est la soirée Toboggan Records.
Label qui fête maintenant ses 2 ans sur Angers. Cette soirée, c'est de l'électro-pop-rock avec Vedette, un label indé, et de l'électro avec Funk Adhésive. Vedette, un quatuor angevin parrainé par le Shabada, réalisateur de leurs propres morceaux. Du coup, profitez jeudi de cette soirée de Toboggan Records, puisqu'ils en sont apparemment de plus en plus avares ces derniers temps. Et le Shabada réattaque sa saison avec une nouvelle programmation qui m'a donné des légères envies de vider mon porte-monnaie avec Deluxe, les petits protégés de Chinese Man, Guidré, la petite guitariste blonde en jolie robe qui chante magiquement des atroces insanités, et Zanzile. L'espace culturel propose cette semaine encore une scène musicale ouverte et le T-Rock son habituel bœuf blues du mardi soir. Bref, la dynamique revient doucement dans la rue d'Angers, mais sûrement.
Merci Mathilde, et vous écoutiez Vedette. À mon tour à présent de vous donner quelques conseils de sortie pour ce soir à 20h. C'est gratuit à l'espace culturel, une conférence sur la grande escroquerie du rock'n'roll animée par Jérôme Simoneau alias Kalcha. Soirée jeu à la ludothèque à 20h30. À la même heure, au Musée des Beaux-Arts, le duo Delta, formé par Richard Bourreau de Lojo et Vinx de Zenzile, inventera de nouvelles associations entre musique et œuvres du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Toujours à 20h30, Lojo joue au Théâtre en Bois. Le T-Rock, qui n'est donc plus en travaux, consacre ce vendredi soir au à partir de 21h30. Et puis Mathilde, tu nous en parlais tout de suite, soirée Capsule au Jacquaret à 22h. Allez, on remonte à la surface, c'est la fin de ce sous-marin. Ce soir, c'était David derrière les boutons, j'étais accompagnée de Thomas et de Mathilde, une très agréable compagnie. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Tout de suite, vous retrouvez l'équipe de Cinéquanon qui fait un point sur le cinéma, comme tous les vendredis soirs à 20h. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Sainte-Carole était hier soir dans l'émission Turbulence avec Marion et Robin. L'artiste évoque son nouvel album et surtout la main invisible qui est sur son nouvel album. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez un très bon week-end et une très bonne soirée sur campus. On se retrouve lundi à 19h. Allez, bisous.
Est-ce que tu peux nous expliquer le symbole particulier de ce titre pour ton album qui s'appelle La main invisible?
Du coup, ça... ouais, la question qui fâche. Ça... Bah oui, de par mes études en licence d'économie, j'ai appris divers concepts que je ne connais toujours pas, notamment la main invisible d'Adam Smith. Mais ça sonne bien. Alors, en fait, c'est pas tant la théorie derrière, parce que je m'en fous de la théorie derrière, je m'en contrefous complètement.
C'est juste les mots qui sonnent, quoi.
Ouais, et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu peux. Ça, je m'en suis rendu compte après, toi, c'était pas du tout calculé. Mais tu peux soit voir quelque chose de concret derrière, donc du coup, la théorie, elle est con d'Adam Smith, soit tu peux en même temps laisser une image derrière. Et je trouve que la pochette du disque derrière retranscrit un peu ça.
Justement, on va.
Tu peux un peu rêver le truc, on va dire.
On va en parler de la pochette. Donc, visuellement, elle est très originale, elle est très jolie, avec une main imposante. Tu as fait appel à l'illustrateur belge Django Jim, c'est bien ça? Comment s'est passée cette collaboration? C'est toi qui as eu l'idée du dessin? C'est lui qui t'a apporté ses idées?
Ouais, du coup, Django Jim, Dimitri, je l'ai rencontré via Fred, rédacteur en chef à Dindy Music, avec qui est un bon ami. Je cherchais un graphiste ou un illustrateur à ce moment-là, et puis il m'a conseillé ce gars-là. On s'est parlé via Skype, et puis ouais, je lui ai fait écouter le disque, et puis oui, c'était vraiment dans les choses qu'il écoutait, qu'il appréciait. Et en gros, on a fait un espèce de brainstorming derrière ensemble pour voir l'idée qui pourrait se dégager du titre par rapport à l'écoute du morceau aussi. Moi, je voulais quelque chose pessimiste mais en même temps coloré. Au final, à ce niveau-là, c'est quand même assez pessimiste quand même la pochette. Ça aurait pu être.
Ah, tu peux nous la raconter pour les auditeurs qui.
Ouais. Du coup, pour l'expliquer, c'est une main en fait qui avale des gens. Qui en fait se jette tout seul dans la main, grosso modo c'est ça.
Les escalators c'est...
Voilà. Bah, les escalators c'est juste...
Pensez aux centres commerciaux, l'aspect capitaliste un peu du truc.
Ouais,
quel symbole a justement le fait que les gens sont aspirés par cette main?
Bah, je t'avoue que je saurais vraiment pas t'expliquer. Que ça,
bon, en tout cas c'est très, très joli et très coloré.
C'est juste une histoire de fatalité, quoi. Ça va pas forcément plus loin, quoi. Ça.
D'accord.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.